Le Salon du patrimoine immobilier, les 3 et 4 avril 2024, au Carreau du Temple à Paris, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
Et on poursuit nos entretiens ici au Carreau du Temple. On est pour deux jours installés au cœur de ce Salon du patrimoine immobilier sur Radio Patrimoine et sur Radio Immo. Et on accueille maintenant Didier Bellier-Gagnère. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être passé nous voir, délégué général de la FPI, les promoteurs immobiliers donc. Où en est-on de ce monde Immo qui... le moins qu'on puisse dire, fait causer.
Absolument. Je dirais qu'on est dans une situation compliquée. Je vais vous donner un chiffre pour illustrer mon propos. Avant la période du Covid et même un petit peu après, le niveau des ventes en logement collectif neuf, hein, j'insiste bien sur le terme collectif, on tournait autour de 260 000 logements vendus par an. L'année dernière, nos prévisions sur 2023 étaient entre 80 et 85 000 logements vendus. Et effectivement, on a atteint le seuil de 85 000. Donc, vous voyez que une chute, pas de moitié, mais on n'en est pas loin quand même. Quoi. Donc, vous voyez que le terme compliqué est un doux euphémisme. Et on est quand même dans une situation très, 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 très compliquée.
On a l'impression que le marché, il dépend énormément du politique.
Oui et non. Non, parce que ce qui a expliqué cette chute, c'est quand même fortement la crise en Ukraine. Et même avant, on avait une crise de l'offre, mais je passe très rapidement là-dessus. C'est la crise de l'offre, c'était en fait les maires qui délivraient de moins en moins de permis de construire. Donc on pouvait mettre sur le marché moins de logements. Et ensuite, en 2022, avec la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de construction, des matériaux, la hausse des taux, fait que la demande s'est également effondrée. Ça c'est le non pour la responsabilité des pouvoirs publics, mais il y a oui aussi parce que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de la crise, donc il n'y a pas eu de mesure comme on a pu en avoir d'autres années. Pire, ils sont dans une logique où on enlève la béquille au moment où ça va le plus mal. Et la béquille, c'est quoi? C'est le dispositif Pinel. Alors certes, il est encore en activité, si je puis dire, jusqu'à la fin de l'année.
Sur mais le papier, il est encore là, mais en vrai, il n'est plus vraiment là.
C'est encore le moment d'acheter. Ouais. Mais dans l'esprit, je pense, de beaucoup de nos concitoyens, ils pensent que le Pinel n'existe déjà plus, ce qui n'est pas le cas. Et toute la publicité qui a été faite autour de... Parce que Bruno Le Maire s'est pas privé de critiquer fortement le Pinel, toute cette mauvaise publicité n'a pas incité les particuliers à continuer à acheter des logements dédiés à la location.
Pourtant, dans cette crise, entre guillemets, on a beaucoup parlé du financement notamment, et là-dessus, on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Cette volonté de modifier un petit peu les règles de fonctionnement du HCSF qui a beaucoup fait parler de lui. Enfin, vous avez vraiment l'impression en fait que les pouvoirs publics, et notamment plutôt dans les hautes sphères, n'ont pas pris la juste mesure du problème.
Ah, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il
faudrait
faire,
du coup ? Non, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ouais. Alors, effectivement, mais vous voyez, on a été entendu, mais avec un temps de latence d'un an.
Eh oui, on est d'accord.
Dès 2022, dès le début de la crise, on a essayé d'expliquer au pouvoir public que le taux d'usure qui était révisé tous les trois mois, c'était pas possible. Il fallait avoir une approche beaucoup plus proactive et le réviser tous les mois. Et on a attendu un an avant qu'une décision soit prise. Là, aujourd'hui, les mesures du Haut Conseil... elle reste, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que avant 2021, les critères fixés par le Haut Conseil n'étaient pas obligatoires. Ce n'étaient que des recommandations. Ce sont devenus des critères obligatoires pour refroidir la machine, puisqu'il y avait beaucoup trop de prêts pour les pouvoirs publics et que le marché du prêt était en train de s'emballer. Maintenant que la machine est fortement refroidie, il pourrait revenir sur un régime de recommandations et pas d'obligations, et vous voyez que c'est pas du tout le cas. Donc les petites évolutions apportées par le Haut Conseil ont été prises sous la contrainte et n'ont pas vraiment un impact sur la réalité des choses.
Donc aujourd'hui, la FPI, j'imagine que vous avez un carton de propositions tout prêt.
Oh là là, on a plein de propositions.
Alors on va peut-être pas toutes les sortir du carton, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait sur la table pour que rapidement, même si on et vous l'avez rappelé, l'IMO c'est du temps long, voire du temps très long, pour que le plus rapidement possible, les choses s'améliorent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, avant de vous donner les propositions, j'aimerais vous dire notre état d'esprit, c'est qu'on a très bien compris que les finances de l'État étaient catastrophiques et qu'il fallait chasser toutes les niches fiscales. Cela dit, premier élément, pour répondre à la crise de la demande, faire en sorte que de nouveaux acquéreurs poussent les portes des bureaux de vente, on milite fortement et l'idée progresse. C'est une idée qu'on porte depuis déjà plus d'un an, voire deux ans. C'est de mettre en place exceptionnellement une exonération sur les droits de succession dans le cas d'un achat d'un logement neuf. Je m'explique, en fait, un ménage qui est peut-être un petit peu aisé décide d'acheter un logement qu'il va dédier à la résidence principale de ses enfants ou de quelqu'un d'autre, il peut le louer. S'il l'achète dans une période de temps qui pourrait être d'un an ou de 18 mois, il est exonéré des droits de succession à hauteur de 150 000 euros par donateur et donataire. Ça viendrait en plus des 100 000 euros d'exonération qui existent déjà. On pense que ça peut vraiment avoir un effet boostant.
Dans l'année ou dans les 18 mois qui suivent
c'est maintenant. Ils achètent le logement maintenant et au moment de la succession, leurs descendants seront exonérés. D'accord. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir. Enfin, c'est se dire, déjà mes enfants, ils pourront hériter de ce logement.
Pendant une période d'un an ou 18 mois. Si j'achète, je suis un ménage. Il aura une étiquette.
Voilà. Okay. Oui, il sera. Ça existait, en fait. On appelle ça, nous, notre jargon, le dispositif Balladur. Et dans les années 90, ça avait été mis en place et ça avait bien marché. Et on estime que la réactualisation de cette mesure permettrait de relancer l'achat à hauteur de 50 000 logements sur un an ou les 18 mois de la mesure. Donc c'est pas rien.
On balance avec les 80 000 dont vous avez parlé au début.
Absolument.
Première mesure, une autre mesure.
Alors une autre mesure, là c'est plutôt, on se tourne du côté des banquiers et on prend en compte encore une fois l'attitude très campée sur ses positions du Haut Conseil de stabilité financière, qui ne veut rien bouger, c'est de dire il faut redonner du pouvoir d'achat aux ménages et faire en sorte que leur taux d'effort repasse sur les 35%. Donc, une façon de faire, c'est de mettre en place ce que nous, on appelle un crédit, ou un prêt, pardon, hybride, c'est-à-dire que 20 à 30% du prêt serait in fine. Ce qui, de facto, vous ne remboursez que les intérêts et pas l'amortissement. Vous n'amortissez pas les 20 ou 30% de ce prêt. Et ça diminue, de facto, le taux d'effort des ménages. Et ça pourrait permettre, les ménages qui veulent acheter, qui ne peuvent pas parce qu'ils sont au-dessus des 35% de taux d'effort,
ça relibérerait,
repasser sur les 35% et ça libérerait.
Bon, ça fait déjà deux mesures.
Ça fait déjà deux belles mesures.
Ça permettrait de mettre un peu d'huile
absolument
dans les rouages.
Voilà, tout à fait. Le prêt hybride, ça ne coûte rien à l'État. Et puis la mesure Balladur, ça leur rapporte de la TVA tout de suite. Et l'exonération, ça va s'étaler dans le temps, ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans. Et en gros, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an. Donc ça n'est pas un coût phénoménal pour les pouvoirs publics.
Juste pour terminer, Didier Bélier-Gagnère, les crises, elles sont toujours créatrices d'opportunités. C'est là où peut-être on se remet en question, où on vient chercher des inspirations pour la suite, etc. Du coup, profitons un petit peu de cette période de crise où chacun s'interroge sur l'immobilier, sur faut-il que je trouve un financement, faut-il que j'achète, etc. On est au sein du salon du patrimoine immobilier. Selon le représentant de la FPI aujourd'hui, l'immobilier doit avoir quelle place dans un patrimoine d'un ménage, d'un épargnant français ?
Moi, je pense que l'immobilier, dans le patrimoine d'un ménage français, ça doit être le socle. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur sûre. Il n'y a pas le côté erratique de la bourse. Ça peut éventuellement baisser, mais on le voit, les baisses, même les projections ne sont pas si catastrophiques que ça. Dans les prix de l'ancien, et c'est un vrai actif qui permet aussi, si par exemple quelqu'un décide d'acheter un logement pour le louer, il peut encore le faire, le Pinel n'est pas mort, contrairement à ce que laissent penser les pouvoirs publics, le Pinel n'est pas mort. Donc ça peut être un très bon investissement pour avoir revenu locatif et puis quelque part préparer aussi sa retraite.
Merci beaucoup Didier Bélier-Gagnère, donc délégué général de la FPI ici au Salon du patrimoine immobilier où l'on passe deux jours sur Radio Patrimoine et Radio Immo au Carreau du Temple. On se retrouve dans un instant.
Le Salon du patrimoine immobilier les 3 et 4 avril 2024 au Carreau du Temple à Paris sur Radio Immo et Radio Patrimoine.